Rassurez-vous, rassurez-vous, vous l'attendiez depuis longtemps, cette 479e émission de Plume et Pinceau. Et bien la voilà enfin, après une longue absence, effectivement, mais vous comprendrez dans cette émission pourquoi notamment nous avons été retardés. C'est pas seulement que nous prolongions nos vacances, hein, vous allez tout découvrir dans quelques instants. Sachez que c'est une émission vraiment spéciale, parce que vous allez avoir une petite manipulation à faire. Il faut que vous soyez bien attentifs, et quand vous entendrez ce son... Il faudra que vous tourniez la page et à ce moment-là, vous vous trouverez propulsé d'autres lieux. Vous arriverez dans la cuisine à Roger parce que cette émission va être enregistrée dans la cuisine à Roger et vous allez comprendre pourquoi nous sommes un petit peu en retard dans nos enregistrements et pourquoi nous sommes dans la cuisine à Roger. Attention, vous êtes prêts ?
Alors je vous remercie, hein, mon bon Erwan, comment vous avez dû porter le matériel de la radio, enfin suffisamment, pour qu'on puisse enregistrer dans la cuisine.
Si, j'ai dû tout porter tout seul, ouais, c'est plus... territoire Juju, pas aller là-bas.
Ouais, plus vos BD, vous avez affronté la zone, tout ça à pied.
Mais ouais, mais vous êtes tout cassé.
Bah voilà, tout ça parce que je me suis bêtement cassé le genou. Bah, au tout début du week-end dernier, mon bon Erwan, juste quand il se met à faire beau... Moi, je sors, je cours sur les roches, jeune chien.
Emporté par la fougue.
Emporté par les, je glisse et je me vaute, je m'explose le genou. Et je termine le seul beau week-end du printemps enfermé à la maison avec le genou en vrac.
Punition divine.
Ouais, effectivement, il y a peut-être une saloperie.
À force de dire du mal de Christian Clavier. il est protégé par les dieux, vous savez.
Mais il boite pas, lui, Christian Clavier. Ça va.
Non, mais après, c'est un peu une tradition. On a beaucoup fait ça déjà, enregistré. Alors, pas dans votre cuisine. D'habitude, c'est dans votre cabanon, mais on peut même plus accéder au cabanon puisqu'il y a un escalier, vous n'arrivez pas à descendre.
Oui, c'est pour. L'escalier, ça complique. Donc là.
Bah, écoutez, c'est bien aussi la cuisine. Il y a le frigo qui est juste à côté, la bière est fraîche.
Voilà.
Enfin, la limonade est fraîche. La limonade est fraîche. Et on avait un petit fond musical.
Et puis moi, je suis en chausson, merci encore.
Si vous pouviez remettre votre pantalon quand même, c'est très gênant.
J'ai failli rester en jogging. Mais je dis non, je vais essayer de me mettre propre, quoi. Je me suis lavé la ouette et j'ai mis un froc.
Bon, on est quand même là pour faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire vous parler bande dessinée. Alors aujourd'hui, comme ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré, on a pas mal de chroniques, mais il y a quand même, alors vous me l'avez spoilé comme une nouvelle rigolote.
Oui,
une news rigolote pour une fois.
C'est pas que c'est rigolo, c'est le personnage qui est rigolo, que j'adorais, que vous deviez adorer lorsque vous avez commencé à lire vos premières BD. Il s'appelle Pepito. J'ai jamais su si c'était un petit gars ou une petite fille.
Le petit pirate. Ah oui, je me souviens beaucoup du dessin. Je me souviens plus trop d'histoire, mais beaucoup du dessin, cette espèce de truc... un peu Jacovitti dans le genre.
Ça fait penser
Fabrice
un peu
R. Jacovitti. Fabrice R, tu le retrouves beaucoup
tout
aussi dans ça.
Et c'est pas le seul.
Cette ligne claire, naïve, je sais pas comment dire.
Voilà. Le talent de, comment dirais-je, de monsieur Luciano Bottaro.
Ah ouais, un italien.
Et c'était superbe. Et bien, saviez-vous que, alors vous connaissez tous et toutes le biscuit au chocolat Pepito. Et il y a une analogie de nom que je croyais être pure coïncidence. Eh ben non. Dans les années 60, le succès de Pepito est tel que son éditeur français décide de vendre les droits du personnage, sans l'accord de l'auteur, à l'entreprise Belin qui fabriquait les Pepito. Puis la marque a décidé de transformer le célèbre corsaire en un Mexicain qui deviendra la mascotte des gâteaux chocolatés. Et plus fort encore, plusieurs décennies plus tard, Luciano Bottaro sera même attaqué en procès par Danone, qui a racheté Belin entre-temps, et devra se battre pour gagner le droit de continuer de dessiner les aventures de Pepito.
Ah oui, vous avez raison, c'est une anecdote très rigolo.
Ouais.
Non, par contre, je ne savais pas qu'il y avait vraiment une filiation directe entre le petit, effectivement, mexicain de la marque et la BD italienne et le petit pirate, quoi. Ah ouais,
c'est hallucinant. Alors,
mais c'est hallucinant, cette expropriation de son domaine, quoi.
Ouais. En plus, on lui a vendu son petit bonhomme sans lui demander son avis.
Ils auraient pu faire pire, vous savez, l'enduire de chocolat.
Et après, les autres, mais au fait, ils dessinent Pepito, on veut lui péter un procès. Non, mais... Merci monsieur Danone, un grand défenseur des arts, pardon.
Ouais. Après, il y a, je suis obligé d'en parler. Il y a Quai des Bulles, on rencontre souvent Pépito parce que c'est aussi le nom d'un dessinateur breton qu'on le retrouve très souvent sur le festival. Il faut qu'il se cache parce que ça se trouve ils vont lui faire un procès à lui aussi.
Ouais,
il a pris un peu facilement le nom, je trouve.
Il y a un tueur pour lui péter les genoux.
Ouais, il va vous retrouver. Il est très sympa d'ailleurs. On le salue.
Pépito,
j'aime bien lui faire la blague de quand je le vois, quand on arrive et qu'on se rencontre pour la première fois à chaque festival, lui faire alors ça va Granola.
Et il m'a dit d'ailleurs faut que vous arrêtiez, il déteste ça.
C'est moi qui vais finir avec les genoux pétés ça.
Et d'ailleurs une année à Quai des Bulles, ils avaient tiré des gros badges avec la tête de Pépito.
Je l'ai encore.
Ouais, tout à fait. Et ça, il faut rendre à César qui appartient à César. J'ai piqué ça sur le site des éditions Cornelius sur Instagram.
Tiens, rappelez le nom de ce fabuleux dessinateur italien.
Luciano Bottaro.
Ouais, intéressez-vous à lui. Et puis tant que vous y êtes, à Jacovitti, ses séries comme Zorikid.
Et puis même Cuccio, il y a très longtemps aussi, où il y avait des nez qui se coupaient comme
Et vous n'avez pas un Fabricère d'ailleurs dans la pile qui est devant vous?
Fabricère.
Oh là là, il a un Fabricère. Il a tout prévu. En fait, ce mec voit loin.
Après, quand je suis en chaussons, je n'oublie rien. On est chez moi.
Interlude musicale.
Yes.
Allez, alors vous m'aviez parlé, vous m'aviez vanté, vous m'aviez Oingo Boingo,
tout à fait.
Ce fameux groupe là qui est devenu pour vous comme une espèce de révélation ou une redécouverte.
Pas une révélation, hein, parce que je connais une redécouverte des années 80, mais plus une redécouverte et notamment la filiation naturelle qu'il y a entre la musique de ce groupe et la musique des films de Tim Burton, puisque le leader de Oingo Boingo n'est autre que Monsieur Danny Elfman, qui est le principal compositeur de toutes les œuvres de Monsieur Burton.
Du coup, ce qu'on s'écoute du Oingo Boingo, et c'est Nasty Habits.
Ouais,
c'est
nom ça. Rigolo.
Ouais, une sale habitude, ça.
Ouais.
Une dégoûtante habitude.
Nasty habits, I must condone. No one knows what I do and
Une dégoûtante habitude programmée par Roger, mais c'est pas le genre de truc qui lui fait peur, les dégoûtantes habitudes. On va en parler tout de suite.
On en parlera tout à l'heure, mais par contre, allez, on va commencer par du sérieux. Pierre-Karl Malo-Kerfriden, ou Kerfriden, pardon, dans les oubliettes de la République, Georges Ibrahim Abdallah. Alors, quand je vous ai dit que j'allais chroniquer ça, vous avez fait la grimace et vous m'avez dit « Ouh, Georges Ibrahim Abdallah, t'as pas de personnage plus sympa. »
Bah, parce que moi, je me souviens de... Enfin, je me souviens plus trop de son cas, mais je me souviens que son avocat, c'était Mester Vergès, qui est quand même un personnage un peu trouble, qui peut être fascinant pour certains, mais moi, je le trouve trouble.
Il y a une excellente biographie de Vergès, ouais. Parue, ouais. Je sais plus, je crois que c'est chez Delcourt.
Exactement, où il était un peu face à lui-même, enfin, une espèce de mise en abîme très intéressante. Quoi.
Ouais.
Et puis bon, il a pris la perpétuité, je l'associais vaguement au terrorisme, tu sais, alors, ces années 80.
Il faut rappeler, Georges Ibrahim Abdallah, lui, alors il est barbu certes, mais ce n'est pas un religieux. Il faut replonger dans les années, dans les années 70, autour de ce qu'on va appeler, Septembre Noir notamment, lorsque les Palestiniens réfugiés en Jordanie vont être chassés lors d'une campagne militaire menée par l'armée jordanienne contre les Palestiniens et vont partir se réfugier au Liban, les survivants. Ce qui ne va pas arranger la situation nulle part, puisque le Liban va être attaqué à plusieurs reprises par Israël en 78, en 82. Et tout ça va entraîner la multiplication d'attentats dans les pays occidentaux, tout simplement parce que les pays occidentaux sont liés par l'histoire et politiquement et économiquement avec des pays qui ne sont pas papotes avec d'autres. Par exemple, pendant la guerre Iran-Irak, alors que c'était quand même l'Irak l'agresseur, on a soutenu à fond l'Iran. L'Irak, alors que c'était quand même
Saddam Hussein avait une image de laïque, progressiste,
voilà.
Etc.
Et même s'il faisait de la merde, on le soutenait. Il les a bien remerciés en attaquant le Koweït après.
Tu sais, un matin chafouin, on s'énerve. Comment tu me parles, toi?
Et ce soutien donc sans faille, notamment de la France, vis-à-vis de l'Irak, nous a valu une série d'attentats. Une série d'attentats au début des années 80, des attentats sanglants en pleine rue, chez Tati, etc. Histoire de... une grosse saloperie. Sauf que le père Abdallah, lui, qui était déjà, qui était déjà en cabane... va adopter une attitude ambiguë, c'est-à-dire qu'alors qu'il n'était poursuivi que pour des attentats commis bien plus tôt, eh bien, il va payer pour tout le monde. Quoi.
Il va servir de bouc émissaire.
Voilà, il va passer pour un bouc émissaire général, à tel point que même les attentats organisés par l'Iran sur le territoire français,
lui sont imputés.
Voilà, par exemple, Robert Pendreau, à l'époque, qui sévissait en tant qu'adjoint de Charles Pasqua comme ministre de l'Intérieur, a déclaré, c'est présent dans cet album-là, nous avions lancé la piste des Farles, la Farles c'était le mouvement d'Abdallah, sur la base des premiers témoignages, même si nous savions que pour des Français qui pensaient avoir reconnu les frères Abdallah sur les lieux des attentats, tous les barbus proches-orientaux se ressemblent. Nos contacts, notamment algériens, nous assurent que le clan Abdallah n'y est pour rien dans ces attentats. Je me suis dit qu'au fond, mettre en avant la piste Abdallah ne me ferait quand même pas de mal, même si ça faisait pas de bien, en réalité, nous n'avions aucune piste.
Waouh!
Et tout ça, on le découvre plus tard et plus loin encore, vers la fin de cet album, on a le témoignage quand même d'un monsieur très très important, hein, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que de Yves Bonnet, directeur de la DST quand même. Hein. Et on est on est à l'époque contemporaine, on est aujourd'hui. Et Yves Bonnet, directeur de la DST, entre 82 et 85, a pris la parole à propos de la peine de prison infligée à Abdallah. Et il déclare « J'ai un problème de conscience avec cette affaire. Aujourd'hui, presque 30 ans après les faits, je trouve anormal et scandaleux de maintenir encore Georges Ibrahim Abdallah en prison. Je considère qu'il avait le droit de revendiquer des actes commis par la FARL comme des actes de résistance. » Et pouf, pouf, pouf.
Ouais. En fait, Il accrédite.
Et pourquoi il paye le pot cassé, Abdallah? C'est aussi parce que, comme il est coco, qu'il a, il a fait énormément chier, c'était un ennemi d'Israël et un ennemi des États-Unis, commis des attentats. Ils ont buté le FARL, il était complice d'un attentat dans lequel un représentant des États-Unis avait été abattu. Voilà pourquoi les Américains ne voulaient pas qu'il sorte. Et les Américains, à plusieurs reprises, vont faire pression sur le gouvernement français pour que Abdallah ne sorte jamais du trou. Et la dernière pression en date a été à l'encontre de François Hollande, qui, alors qu'il partait acheter des croissants pour sa nouvelle chérie, a dit « Bon, Captain Hollande, on le laisse en prison. »
C'était quel président américain, du coup ?
Alors, soit Obama, soit...
Ça peut être Obama, c'est ça qui est sidérant.
Ben, ça rigole pas, quoi. Il avait du sang américain.
Il y a des sujets sensibles.
Donc, de toute façon, il aurait été aux États-Unis, il l'aurait exécuté, point. Et tout ça est fort bien expliqué par messieurs Pierre Carl et mis en image par Malo Carfrina, qu'on connaît bien, puisqu'il a également commis un album autour de la personnalité de Badinter. Vous vous rappelez ?
Ouais, exactement. Et puis, vous le connaissez de bien d'années avant, du Fanzina, d'ailleurs, je crois.
Tout à fait.
Et alors, graphiquement, il a choisi quelle option, là ?
Alors, très sérieux. Alors, c'est rigolo, quand même, parce que ce monsieur Malo, là, on le connaît.
Il est un peu multicarte, graphiquement, donc...
De temps en temps, alors le dessin est très réaliste, puisque on est forcé de représenter les personnages, il y a des ressemblances, etc. Donc il peut pas faire n'importe quoi. Vous voyez, là, monsieur Perben, je l'avais pas vu depuis des années. Bum, j'ai vu sa gueule, j'ai reconnu Perben tout de suite. Malo a fait un extrêmement travail précis de travailler sur la ressemblance des personnages. Mais de temps en temps, quand il a envie de raconter des choses de manière un peu plus ironique, pouf, on retrouve un dessin beaucoup plus rigolo et plus fun, vous voyez, avec les... on voit Pasqua et Pardro qui disent « on s'excuse, pardon ».
Et on dirait vaguement la poire, la fameuse caricature de la poire royale, de je ne sais plus quel Louis. Parce qu'ils ont un côté très rond comme ça, il y a un côté caricaturiste. Louis-Philippe, voilà. Il y a un côté caricaturiste sur quand il fait ce genre de dessin-là. C'est assez rigolo.
Ouais. Mais il s'était comment lancé à un moment donné dans le dessin de presse, et apparemment, il n'a pas continué. En tout cas, moi, ça m'a tout à fait ouvert.
Presque un peu du Trexien, du Trex un petit peu.
C'est marrant, vous me dites ça, parce qu'ils ont un point commun, messieurs Dutrex et Carfrina, c'est qu'ils sont très élégants, toujours.
Oui, c'est
vrai. On l'appelait Prince Riri, d'ailleurs, lorsqu'il travaillait avec nous dans Tentacule, tellement c'était le seul à s'habiller autrement qu'avec des vieux futurs ou des vieilles baskets pour Ave. Voilà, il avait du goût, cet homme-là. Et il le conserve à travers son trait, très élégant, le dessin est précis, efficace. Et je vous dis, ces petites pastilles, de temps en temps... Et puis, cette histoire-là, au fond, de menée par Pierre Carl, c'est quand même assez incroyable, quoi. Parce que moi, le premier... Et c'est marrant, parce que quand je vous ai parlé de ce bouquin-là, vous avez fait la grimace quand je vous ai parlé d'Abdallah, parce que c'est pas le bonhomme qui, dans notre passé, à nous, vu qu'on a l'âge d'avoir connu ces événements-là, nous fait quand même le plus kiffer, quoi.
Ouais, exactement. Mais
sympa, quand même.
Ouais. Mais c'est peut-être parce qu'à l'époque, il y a eu des discours qui ont accompagné cette décision politique.
Et on s'est fait laver la tête.
Ouais, c'est ce que ça transparaît.
Pierre-Carl Malo Carfridin, Delcourt Ancrage, dans les oubliettes de la République, Georges Ibrahim Abdallah.
Alors, je suis très content d'enchaîner parce que c'est un bouquin qui est très, très lourd. Là, je vous propose un bébé qui fait bien son kilo 3, son kilo 5. 320 pages de bande dessinée.
Vous ne l'avez pas emmené.
Non, là, j'avais trop, mais j'ai pris mes fiches. J'ai fait une petite fiche. Horizon climatique, scénarisé par Iris Amata Dion. Et au dessin, on a Xavier Henrion. Ça paraît chez Glénat. Un 28-21 de 320 pages qui pèse son poids. L'objet pèse son poids, mais surtout il pèse son poids parce qu'en fait, connaissez-vous le GIEC ?
Si, c'est le groupe international d'études sur le climat, c'est ça ?
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, créé en 1988. Ouais. Ce groupe, c'est en fait un groupe qui a pris en bras une mission qui est quand même une mission assez dingue, c'est-à-dire en fait de synthétiser toutes les productions scientifiques qui touchent à la question du changement climatique. Vraiment, ils se coltinent tout, ils font des groupes de travail, ils se coltinent tout, c'est des grosses têtes, c'est des têtes d'ampoule, ils ont des lunettes à mon avis tous. Ils se lisent tout et ils font des synthèses qui doivent permettre aux citoyens, aux politiques, aux entreprises, d'avoir une vision scientifique des changements climatiques qui sont actuellement en cours et de leur permettre ainsi d'agir en prenant des options de développement durable certains, quoi. Donc c'est vraiment, ils montrent la direction. Et tu sais bien que à l'heure actuelle, les questions de changement climatique sont des questions où en fait on est presque surinformé, mais en même temps très désinformé, parce que Internet se fait entendre, et sur Internet, tu sais bien que t'as tout un tas de discours des plus farfelus, la Terre est plate, jusqu'à le changement climatique n'a jamais eu lieu, etc.
Il y a aussi quand on n'a pas envie de voir, parce qu'on se dit.
Il y a les entreprises, don't look up, tu sais, tu vois le truc, quoi, tu vois l'allusion au film Netflix. Donc en fait, ça part de l'idée que Irène Amata-Dion va raconter en fait son histoire. J'imagine que c'est vrai, sa rencontre avec Xavier Henrion, c'est-à-dire que Iris Amata-Dion en fait est une scientifique elle aussi, hein. Elle travaille dans un labo et elle s'intéresse aux questions justement climatiques, donc le GIEC pour elle c'est vraiment une source, hein, c'est une bible, et elle s'aperçoit quand même autour d'elle les gens ne sont pas informés ou alors carrément désinformés. Elle est un peu désespérée et puis elle rentre chez elle après une journée de boulot et elle tombe sur en fait un type qui attend à la porte d'à côté, le voisin. Il est en coloc mais il a oublié ses clés, donc du coup elle l'invite à boire un café, ils discutent un petit peu et puis ils échangent et elle doit aller à une réunion d'information sur le GIEC, de présentation, et elle trouve personne avec qui aller et puis lui il accepte. Tu vois, il est dessinateur de BD, il travaille un petit boulot, il est glacier, tu vois, il vend des parfums vanille, des parfums pistache, etc.
D'assiste, vous voulez dire ?
Ouais. Mais il est dessinateur, tu vois, boulot d'appoint. Et donc, ils y vont, et puis ça l'intéresse, ça le passionne, et du coup, c'est un petit peu elle le guide, quoi. Elle l'emmène rencontrer en fait 9 scientifiques qui travaillent autour du GIEC. Alors il y a plein de gens hyper connus, hein, Jouzel, etc. Jean Jouzel, Valérie Masson, Delmotte, enfin vraiment des pointures, qui vont lui expliquer chacun un aspect ou une question en lien avec le changement climatique, l'effet de serre, les répercussions sur les océans, etc. Du coup, c'est une mine d'informations. En fait, c'est une vulgarisation du rapport du GIEC, j'ai envie de te dire. Alors, il y a des dessins scientifiques et tout, hein, c'est ardu, il y a à manger, il y a son point en connaissance.
Hein.
Oh, 320. 320 d'explications. Mais après, c'est un peu, moi, j'ai pas l'esprit très scientifique, donc j'avoue que il a fallu que je fasse des pauses, etc. Parce que, par moment, j'ai même fait googler certains mots parce que je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient me dire.
Vous voulez dire dictionnaire?
Ouais, il y a un côté dictionnaire quand même. Alors, il y a des petits schémas qui essayent de nous expliquer et tout. Mais finalement, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que, au fur et à mesure donc, il y a le côté informatif sur le changement climatique, mais tu vois aussi les interrogations qu'ont les scientifiques sur leur propre rôle. Notamment, est-ce qu'ils doivent prendre parti, puisqu'il y a des contre-discours, des contre-vérités qui apparaissent, et puis le politique ne s'empare peut-être pas très bien de ce rapport, il y voit ce qu'il veut voir. Est-ce que les scientifiques, tu vois, il y a un questionnement sur est-ce que le scientifique devrait s'engager.
Aurait-on pu imaginer ?
Voilà, exactement. Et donc, il se pose des questions, est-ce qu'on doit s'engager ? Et comment s'engager en tant que scientifique ? Tu vois, c'est très intéressant, cette partie presque plus humaine. J'ai trouvé ça vraiment bien. Et en fait, le fil rouge, donc, c'est le cheminement de nos 9 personnages qu'on apprend un peu plus à travers 9 rencontres. C'est vachement intéressant, à peu près, et c'est fort utile. Et tu pourras pas dire, effectivement, après, tu ne savais pas, parce que ça, c'est encore un moyen de nous faire connaître tout le truc, quoi.
Est-ce que le problème de des violences et des menaces adressées aux membres du GIEC est abordé ?
Non, ils abordent plutôt les contre-discours,
aussi,
les contre-feux.
J'ai quand même effarant.
De toute façon, j'ai envie de te dire, trouve-moi un sujet où actuellement les gens sont pas en train de s'écharper à mort, tu vois. Même sur qui va chanter la Marseillaise, ça devient des polémiques incroyables. Tout est prétexte à conflit. On est dans une société très divisée, très clashée. Et encore, réjouis-toi, on n'est pas en Nouvelle-Calédonie.
Ouais, ça c'est les effets délétères de comment CNews et puis des débats entre informés et comment pro et compagnie.
Un début d'émission sous le signe de la rigolade et de la poilade.
Ouais.
Horizon climatique, Iris Amata-Dion, Xavier Henrion au dessin. Alors oui, deux mots quand même sur le dessin. En fait, on est dans un dessin qui lui aussi utilise pas mal le croquis, le portrait de personnage, puisque dans toutes ces rencontres, c'est finalement des discussions. Donc tu vois nos 3 héros, c'est-à-dire notre scientifique et notre petit couple là qui mène l'enquête, vraiment en pleine discussion, donc ils sont bien croqués, tu reconnais effectivement certains journalistes, certains scientifiques, j'ai comparé avec les photos, j'ai googlisé, c'est une espèce de ligne claire renforcée avec un peu de couleur, tu sais, qui comme Nicobi sait faire, etc., pour poser des atmosphères, des discussions. C'est vraiment bien, c'est vraiment intéressant. Horizon climatique chez Glénat. Iris Amatadion au scénario, dessinateur Xavier Henrion, 320 pages de connaissances. Ouf. Interlude musicale.
C'est chez qui, vous avez dit ça ?
Glénat, l'ami, Glénat. Interlude musicale. Tiens, si, Dance Dance to the Radio, mais alors une Mexican radio avec les Wall of Voodoo. Retour dans la cuisine au petit papy Roger. Ah, je dis petit papy parce que votre mobilité est extrêmement réduite.
Là, c'est vrai que là, elle est bien plus... je suis anéanti. Tiens, et puis puisqu'on est... Alors, c'est aussi pour ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, j'ai beaucoup lu. parce que
oui, vous aviez du temps.
Bah ouais, j'étais coincé au lit sous la pluie, coincé à la maison par la pluie, vous connaissez.
Ouais, ouais, cette fameuse gravure qu'il y a chez vous, ça, c'est, elle était dans votre cuisine elle, d'ailleurs, elle, je la trouve plus.
À Grandville.
Ah, d'accord, ok.
Plus de pluie à Grandville. Restons dans la rigolade avec Carcajou. Carcajou que nous devons au talent de messieurs El Diablo et de Gillian Deroche. Alors, El Diablo, monsieur El Diablo, pour moi et pour vous sans doute aussi, je crois, nous l'avons découvert avec...
Monkey Business, moi.
Affreux Monkey Business. Et je ne sais plus qui est de dessin, je ne sais plus, il faudra qu'on vérifie, on mettra ça dans le blog. Un album particulièrement violent.
Violent.
Oh, quand même un peu, quand même.
Ça. Moi, j'aimais bien ce duo de singes. Il y en avait un qui vous ressemblait à mort. Le mandril.
Je trouve que je ressemblais à celui-là.
Bah, il a des lunettes comme vous. Et puis il était quoi, non,
toujours mauvais, c'est vrai, toujours mauvais, prêt pour la baston. Calme-toi, qu'est-ce qu'on lui disait, le gros gorille, calme-toi.
Au frère Mandril. Calme-toi. Oui, oui, j'aime bien.
Bah, Carcajou, c'est marrant qu'on parle de Mandril. Il fait toujours dans la bestiole. Alors, vous savez quand même que monsieur El Diablo, maintenant, il vit au Canada. Faut le savoir.
Et dans une cabane ?
Non, il habite en ville. Il habite en ville. Je croyais que c'était fini. Il habite en ville, mais ça n'empêche pas d'avoir de la neige. Il le raconte très bien. Et d'ailleurs, je dois chroniquer bientôt, dès que la librairie d'où nous tairons le nom m'aura livré la BD que j'ai commandée. Il livre même pas les vieux handicapés, vous imaginez ?
Voilà. La dernière fois, je leur ai demandé un truc, ils ne l'avaient pas sous prétexte que c'était sorti en mars. Tu te rends compte ?
Ouais, mars, ça y est, c'est has-been, quoi.
Et ils ont essayé de m'acheter avec des gommettes. Et des petits autocollants.
Mais je rêve.
Tu te rends compte, mais enfin bon, je le dirai pas à l'antenne.
Bref, alors, j'ai réussi à voir Carcajou. J'ai eu du mal. Hein. Au début, je ne devais pas l'avoir. Ils ont fini par m'en trouver un. Je ne sais pas à quel autre petit vieux ils ont dû le shipper. Mais c'est balèze. C'est hyper balèze.
Alors j'en ai entendu parler. Il paraît que c'est super bien.
Ouais, ça a plu à tout le monde à la librairie dont nous tairons le nom. Et à moi aussi également, énormément, parce que c'est l'histoire d'un combat. Alors on pourrait même dire quelque part de façon très basique entre le bien et le mal, mais le bien et le mal prennent parfois des formes assez bizarres. On est au Canada, on est au début du 20e siècle, et c'est plus la ruée vers l'or, c'est la ruée vers l'or noir. Et on est dans une espèce de petite cité minière où sur les collines alentours, il y a plein de pétrole. Sauf que sur une des susdites collines habite le Carcajou. En fait, c'est pas son nom, le Carcajou. J'ai vérifié, moi aussi, alors j'ai googlisé. Alors je dis pas que j'ai googlisé, j'ai regardé sur le dictionnaire. Ben oui, qu'est-ce que je vous dis? On est d'une autre époque. Et comment? Donc, j'ai donc regardé dans le dictionnaire.
Vrai, vrai.
Et le Carcajou, ça existe, en fait. Ça existe. C'est une espèce de bestiole. Faut pas la faire liège, quoi, genre. Le Carcajou, tu le fais pas chier.
C'est une espèce de Wendigo, un truc comme ça ?
C'est ça. On dit que c'est de la légende indienne. Moi, vous me connaissez, je préfère être prudent avec ces choses-là.
C'est Juju.
Voilà. Et si le Carcajou, on vous dit, il est dans la montagne, tu vas pas dans la montagne. Et si tu vas dans la montagne et que tu finis mal, faudra pas venir couineux. Et c'est ce qui va se passer. Cette colline, déjà, on la sent bizarre. Parce que l'histoire commence, on voit le personnage qui va devenir quelque part le personnage principal pour une bonne partie de l'album, qui se pointe en haut d'une espèce de colline vierge, etc. Ça a l'air cool. Il est en compagnie d'un Indien. Et il dit, c'est là. Puis l'Indien lui fait, c'est là. OK. Il lui jette de l'argent. Il dit, bon, maintenant, tu te tires. Oh. C'est un gars du coin... Un gars du coin, de pas très loin, en fait, qui a décidé de s'installer là. Ça lui plaît, là. Il est peinard. Pas forcément pour y chercher de l'or, mais pour vivre seul, on le fait pas chier, tu vois.
Ouais.
Il connaît la nature comme personne, etc., etc. C'est pas encore un Carcajou, mais ça risque de le devenir.
Ah, OK.
Et pourquoi ça risque de le devenir ? Tout simplement parce que dans la vallée, en bas, il y a un espèce de sale con qui est né dans cette putain de vallée et qui a acheté tout le monde en devenant multipropriétaire de terrains de pétrole. Il a le shérif et la police locale sous sa coupe.
Ouais.
Il a les villageois qui l'exploitent et qui bossent pour lui, etc. C'est l'horreur.
Le calife du coin.
Ouais. La seule qui lui résiste, c'est la tenancière d'un bar-hôtel. Et on est vraiment...
Faut toujours une héroïne.
Ouais, puis on est quand même dans le western, quelque part.
Ouais, c'est marrant. C'est bien.
Et cette belle nana qui se refuse à lui, c'est assez bizarre. Et donc, Donc, eh bien, l'affreux de la vallée et le petit bonhomme en haut de la colline vont rentrer naturellement en guerre, puisque l'autre, il veut la colline aussi, parce qu'elle semble dégorgée de pétrole. Et ben, ça, je vais pas le spoiler, parce que, comment dirais-je, ça serait...
Non, mais on voit l'ambiance, C'est un côté western, effectivement.
C'est un côté western, ça me fait penser, vous savez, au niveau du dessin, un peu au travail de Monsieur Blin, quand il faisait des westerns, il y a bien 20-30 ans, vous rappelez.
Oui, pas faux.
Alors, c'est en couleur, un trait assez simple.
Ce qui est rigolo dans les BD qui sont de ce type-là, c'est que quand t'as les bulles, quand ils crient, elles sont toujours sous forme d'explosion. T'as pas remarqué ? Tiens, regarde là.
Ah oui, mais c'est pas
ça. Ça, c'est vraiment un truc caractéristique, je trouve, de ce genre de truc, d'aventure et de dessin.
Et quelque part, au niveau des personnages, on pourrait dire qu'il y a presque du zanzime là-dedans. Il va sûrement casser la figure quand il va.
Non, je pense pas. Je suis d'accord avec vous.
C'est un peu ça.
Je suis d'accord avec vous.
C'est-à-dire que comme
les couleurs sont jolies, la scène de nuit est belle, là. Les bleus sont profonds.
Hein. Et puis des gens, si vous voulez, des dessinateurs qui ils ont des partis pris, pouf, ils surchargent de couleurs quand ils ont envie, voilà. Et puis c'est très, très coloré, très explicite.
Ouais, c'est chouette.
Et c'est très free. Alors l'histoire, elle est rude, hein, quand même. L'histoire, elle est rude, parce que cette guerre entre le personnage, qui n'apparaît pas comme étant quelque part très très sympa non plus, la victime de l'autre dans la vallée. Personne n'est sympa, personne n'est cool, mais en même temps, il y en a un, il fait quand même plus chier que les autres, quoi. Tout ça va se terminer, vous imaginez bien. Il y a aussi au niveau du scénario, quelque part, qui fait penser à ces films où on a la cité qui finit effondrée, quoi, la cité du maître qui a trop étreindre, et bien on finit par tout perdre, quoi.
C'est chez Sarbacane, c'est un beau bouquin, il soigne bien les bouquins aussi, il est beau, de rond.
Sarbacane, dont on a déjà parlé, j'ai oublié. Alors c'est un gros livre, c'est un gros livre.
Un beau bébé, ouais.
Ouais, un beau bébé, et finalement, pour un prix, moins de 30 boules pour un bel ouvrage comme ça, hyper épais, et qu'on ne peut pas se cogner en une fois, à moins de le saloper, ça vaut le jus. Ça vaut le jus, merci messieurs. Pardon, El Diablo et Messieurs Desroches pour cet excellent album paru donc aux éditions Sarbacane. On fait dans le lourd, on fait dans le lourd aujourd'hui.
Alors je vous ai posé devant vos yeux ébahis, j'espère, le travail qui a été fait par Alessandro Corbettini, qui est dessinateur sur l'album que vous avez devant vous, scénarisé par Frédéric Brémaud. C'est Kernok le pirate, ça paraît c'est très étrange, aux éditions Glénat. Et là, je t'emmène dans une adaptation d'Eugène Sue qui va nous parler de pirates. Et alors, elle va nous parler de Kernok, un pirate breton. Et on va nous embarquer dans une histoire d'abordage, de pillage, mais aussi de sorcellerie et de légende. Parce que ça commence, Kernok vient voir une espèce de vieille installée sur les côtes bretonnes, la sorcière de Pantpool. Elle vit là, elle fait des prédictions.
De Paimpol ?
Non, c'est déformé en fait, c'est pas précisément localisé. J'ai vu Paimpol moi aussi, mais c'est Pempool.
Ouais, ils écrivent P-E-M-P-O.
U-L.
Je me demande si c'est pas le nom.
Le vieux nom, peut-être. Ah, peut-être, ouais. J'ai pas googlisé ça, j'ai pas pensé. Moi, j'ai vu ça comme une espèce de fable. Ou de légende bretonne.
J'y mettrai pas ma main. Vous savez comment sont les Bretons, ils sont susceptibles. Donc, mais je vais vérifier. Mais je crois que Pempool, que c'est P-E-M-P-O-U-L.
Parce que il y a un côté très légende bretonne, tu vois, dans cette histoire. Donc, il vient la voir. Elle vit sur les côtes. Tu sais, on ne sait pas très bien de quoi. Elle ferait peut-être bien des feux pour attirer des bateaux qui se scratchent. Ça serait pas impossible, quoi. Elle vit avec une espèce de, en plus d'attardée. Bref, c'est une nana, elle pourrait habiter en haut d'une colline au-dessus d'une cité minière dans son genre, tu vois. Assez intriguant. Donc il vient la voir parce qu'il voudrait connaître son avenir. Il s'inquiète un peu. Et en fait, elle va lui prédire qu'il lui reste 13 jours à vivre.
Oh, cool.
Donc il va rembarquer et il est un peu sous la pression comme ça de cette échéance. Faut-il la croire ou pas ? Est-ce qu'un bon pirate est un pirate mort ? Bref. Il veut finir, si c'est le cas, en beauté. Et on va le suivre autour d'une histoire d'abordage d'un galion espagnol. Alors ce qui est très intriguant dans cette histoire, ce qui fait son sel, c'est la narration. Alors il y a beaucoup d'encarts narratifs, hein, parce que je crois que c'est adapté d'un roman. Mais il y a un ton très particulier. Kernok le pirate, c'est pas un mec cool, quoi. Tu sais, t'as des pirates romantiques, des pirates qui ont réuni un équipage parce que ils sont sympas, quoi. T'as envie de bosser pour eux. Kernock, non, il est plus dans, tu vois, dans le genre bâtard, il est plus bâtard. C'est-à-dire que tu le verras facilement abandonner des membres de son équipage à crever de soif. Tant pis parce que on n'a pas assez de vivres, donc on se débarrasse des blessés et puis on s'en fout quoi. Bref, il est plutôt cruel, il est plutôt ambitieux, il est plutôt avide au gain. Il est pas très sympa avec son équipage, mais la narration fait que tout est raconté presque comme si c'était normal, et même si les autres comprenaient. Il y a une espèce de ton à la Voltaire, tu sais, dans...
Mais est-ce que c'est pas normal, justement, parce que c'est cette image romantique du pirate, etc.
Ouais, ouais.
Elle nous a été vendue.
Mais elle est faussement déculpabilisante, cette narration, tu vois. Ouais. C'est presque lui qui a raison, et c'est un tel personnage que, de toute façon, waouh, on l'admire. Il y a un ton à rien n'était si beau et si leste que les deux armées, tu sais, dans le passage de
Voltaire du Candide.
Ouais, ouais, il y a une espèce de ton ironique comme ça, qui est très curieux et à ma foi assez plaisant et déroutant, parce que je te dis, les faits en eux-mêmes, c'est un bâtard quoi, c'est un enculé, c'est vraiment un enculé.
Le métier est dur, l'environnement est dur.
Il rembarque, il punit son contremaître, je crois, son chef canonnier, parce qu'il arrive un petit peu en retard, il les rejoint dans une barcasse, parce que sa mère était morte, il était à l'enterrement, il le fait fouetter quoi, et le mec en crève. Mais bon, il avait qu'à arriver à l'heure, quoi. Et ouais, tout le monde semble trouver ça normal.
Se débarrasser d'un bon chef canonnier.
Ouais.
C'est pas forcément une bonne idée.
Il y a une espèce de folie. Ah. C'est un colonel Kurtz dans son genre, tu vois.
C'est ça.
Et le dessin est très, très beau. Le dessin est vraiment très, très beau. C'est pour ça que je l'ai ouvert devant toi. Moi, je trouve qu'il y a des petits côtés Marini en noir et blanc. Tu vois, je vois le scorpion, tu vois, notamment sur cette case là, dans le personnage de Kernock, je vois le scorpion.
Avec le même trait, parce que là, je crois qu'on est carrément, on dirait que c'est direct, peinture directe.
Ah ouais, peinture directe, du noir, du gris, du blanc, je te mets tout de suite des atmosphères, des personnages qui ont des tronches, notamment, alors Kernock est très beau et les autres sont presque grotesques et... ouais, sont presque grotesques. Lui, il est vraiment présenté comme une figure, il est beau, et les autres sont quelque peu ridicules, voire monstrueux. Et c'est marrant, le seul autre personnage qui est beau comme ça, c'est un Anglais avec qui il va se retrouver, un capitaine anglais qui est un peu sa némésis, qui apparaît à la fin, qui lui est beau, mais d'une beauté angélique. C'est très intéressant, c'est vraiment... une sacrée légende, quoi, avec un personnage vraiment haut en couleur. Et graphiquement, j'ai trouvé ça d'une beauté. Vous qui aimez les bateaux avec plein de voiles et plein de mâts, vous allez adorer, quoi.
La mer, le travail sur le rendu de la mer et comment...
Mais ça reste douce amère, quoi. Ça reste un peu horrible. Donc, Kernock le pirate... édition Glénat, collection très étrange, un très beau bouquin dessiné par un Italien, donc Alessandro Corbettini, et scénarisé par Frédéric Brémo, que vous connaissez peut-être pour, Brindille par exemple, ou Tête de Pioche. Je crois qu'il vit en Italie et ils se connaissent par ce biais de la géographie. Interlude musical.
Si vous voulez.
Il va y avoir du sport.
Ah tiens, c'est très bien, il va y avoir du sport avec Silmarils.
Exactement, ça c'est notre côté indolent.
Mais moi je reste tranquille, c'est un peu moi.
Boy, mon nom c'est Smokey. La rumeur gronde, tous les gars sont sortis. On sort de l'ombre, faites chauffer les amplis. Pour donner un peu d'air, c'est clair, c'est clair. La on sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Faut pas que je force, que la vie soit facile. Je veux faire de l'or sans bouger mon nombril. Me donner un peu d'air, c'est clair, c'est clair. J'ai rendu à mes amplis pour plaire aux cailles, éviter les ennuis. J'ai passé l'âge, laissé des ardoises. Il faut que je me pose quand tout le monde. Seul lâche, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Le soleil plombe et les girls sont faciles. Dans la pénombre, préférer les dociles. Je veux toujours moins en faire. C'est clair, c'est clair. Allonge du cash pour se manquer. Autant que je sache, c'est une bonne thérapie. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport.
D'un seul coup, ça correspond. L'ambiance musicale était en parfait accord avec un truc qu'on n'aurait pas au studio, c'est-à-dire un grand soleil qu'on voit à travers la fenêtre de votre cuisine, mon bon Roger. Rien que pour ça, c'est cool.
Oui, c'est vrai que comment on regrette un peu le gast où on allait bronzer.
Au niveau luminosité, ouais. Ouais.
On a fait des émissions, comme on dirait.
Torse nu. Torse nu.
Ben oui, oui. Maintenant, on est dans une cave, malheureusement.
On a des cache-nez.
Allez, tiens, pour nous réchauffer, Mean ah. Girls Club.
Ah, on l'attendait depuis le début, celle-là.
La vague rose de monsieur Ryan Eshka. Ryan Eshka, un auteur canadien, si je dis pas de bêtises. Comment? Parce que là, je dis pas de bêtises, puisque j'ai sa bio sous les yeux. Et il vient de. Alors, moi, je le connaissais absolument pas. Hein, vous voyez, je connaissais absolument pas ce monsieur.
Et il a fait une entrée en force dans votre panthéon personnel.
Alors j'ai vérifié hein, pendant le disque, c'est bien Pempoul. Alors, Pempoul, par contre, c'est P-E-M-P-O-U-2-L.
Ah, là, il y en a qu'un. Mais bon, il y a peut-être des variations après. Des dialectes locaux. Revenons à notre Aftir, parce que c'est quand même une chouette BD. Parce que le monsieur... Moi, quand tu regardes la couve est très réussie, tu sens que tu mets les pieds dans une atmosphère.
On va dire comment... Est-ce qu'on est encore dans la BD, je ne suis... Enfin, dans la BD classique telle qu'on l'entend, j'en suis pas sûr. Pour moi, et en plus j'en veux pour preuve que je l'ai montré à des gens, notamment à des filles, des amis, qui sont pas forcément, comment dirais-je, lectrice fan de BD, mais, comment dirais-je, qui tout de suite flash là-dessus. Alors, sans doute peut-être aussi...
C'est rose. Non, et puis la couverture est très rose.
La couverture est rose, mais je crois que c'est le seul truc qui est véritablement de girly dans cette affaire.
Ouais.
Parce que le Mean Girls Club regroupe quand même 6 jeunes filles. Elles sont carrossées à la Stanton. Vous voyez, Richard Stanton, comment...
Ross Meyer aussi, on pourrait dire.
Oui, ça peut faire penser à Ross Meyer. Il y a la bagnole. Comment le... Ouais, je te dis, vous savez, Stanton avec des femmes longilignes. Et comment dirais-je...
Comme dans Gwendoline.
Gwendoline, voilà, c'est ça.
Bah, c'est des filles longilignes, avec des talons aiguilles, du cuir,
voilà.
Et des coupes à la Betty Page.
C'est ça.
Ou alors des petites marinières, des choses comme ça.
Ouais,
c'est...
Des petits tops moulus,
ouais.
et qui les rend fort désirables.
Très pin-up, en fait.
Ouais. Sauf que le Mean Girls Club, en fait, vaut mieux qui s'y frotte s'y pique, je serais tenté de dire.
Mais c'est là où ça rejoint Ross Meyer, moi, je
voilà.
trouve.
Voilà, et puis surtout, peut-être, c'est ce qui plaît aux filles, c'est ce côté, c'est ce côté révolutionnaire, puisque Mean Girls Club, eh bien, c'est un club, on va dire, de bad girl. Et il faut pas les faire rien. sèche.
Rien à foutre du patriarcat.
Ouais, là, on est au-delà du patriarcat, quoi. Tu t'approches, t'es mort. Et c'est très rigolo. Et c'est là où ça me fait penser un peu à Stanton, parce que chez Stanton, chez Gwendoline, il y avait du bondage, etc. Là, elles font pas dans le bondage, elles font dans l'élimination des cons. Direct, elles butent, elles tuent, elles cartonnent, elles sortent de leur maison en feu pour buter tout le monde. Waouh. Alors, il y en a une, elles sont toutes, bon, elles sont soit tatouées, soit, alors on a Sweets, on a Wanda, on a Wendy, on a Pinky la chef, on a Blackie et McQuaid. Et va venir les retrouver suite à toutes les aventures qui vont se passer dans cet ouvrage, Roxy. Et Roxy, en vérifiant, en travaillant, en cherchant sur un vieux dictionnaire en papier, une biographie de Ryan Eshka. Où es-tu, mon bon vieux Robert ? Alors, Ryan Eshka, j'appuie sur mon Robert. Et donc, ce monsieur-là, il a passé une grande partie de son enfance à dessiner, construire des villes en carton, etc., et faire des films Super 8. Et en fait, ses premières influences sont un petit peu Playboy, Vanity Fair, etc. Et il va réussir à faire justement publier pas mal d'illustrations dans ces journées-là, dans ces journaux-là. Et il n'a pas fait effectivement de nombreuses bandes dessinées, on est plus dans l'illustration, et on retrouve ça à travers la façon qu'il a de dessiner les aventures du Mean Girls Club, c'est-à-dire que la proportion, tu t'en fiches, c'est-à-dire que la chef, elle peut être trois fois plus haute que ses copines en temps normal, et puis après,
Oui, c'est travaillé sur la mise en page quand même aussi, le strip est un peu de guingois comme ça.
Ça peut être de guingouin, comment il n'y a pas forcément de fond, vous voyez, les perspectives sont totalement improbables, les points de vue aussi, ça peut être vu d'en haut, vu d'en bas, vu de côté, tout ça est très
très cinématographique, moi je trouve. Enfin, je suis parasité par l'image de Russ Meyer sans doute, mais ça a l'air très très chouette et je trouve ça très rigolo de coloriser tout ça en rose, voilà. Parce que ça fait un contrepoint assez rigolo, parce que ouais, je vois des images, elles cassent des gueules quand même.
Elles cassent des gueules, elles ne font pas que casser des gueules. Bah, c'est un peu le carcajou au féminin, mais elles sont 7 avec Roxy.
Et plus jolies.
Plus jolies, mais comment...
Ne faites pas votre hypocrite.
Il ne faut pas les faire yèche. D'ailleurs, quand la chef a dit « Est-ce qu'on est prête ?»« Oui, on est toujours prête !» Et encore une fois, la chef, elle devient... Alors, tout au long de l'île, il va y avoir toute une histoire. Elles vont se battre contre le maire corrompu, le shérif pourri, le curé libidineux. C'est jouissif en fait. Et ça se termine par une. Effectivement, de toute façon, c'est pas spoilé que de dire qu'effectivement le Mean Girls Club va l'emporter. Et dans une espèce d'apothéose de massacre, de carnage.
Un truc à presque Tarantino, tu vois.
C'est ça, un peu ça. Et par contre, avec un look, années 30-40, quoi. La voiture du Mean Girls Club est géniale. Une espèce de grosse voiture décapotable avec une mitrailleuse. Le pare-brise avant est blindé et il y a une mitrailleuse, mais en fait, elle tire des obus. La mitrailleuse explose et elle pète tout en ville. C'est assez impressionnant.
Le livre est beau aussi. Ouais, le livre est très beau.
Et tout ça, on le doit naturellement au requin marteau, naturellement. Mm-mm. Au requin marteau. Et c'est marrant parce que Agathe, justement, que nous avions interviewé juste avant les vacances, qui fait grave également le Mean Girls Club, alors que comme elle l'avait dit dans l'interview qu'on a eue avec elle,
C'est pas son
univers du tout. C'est marrant. Donc, si vous voulez effectivement offrir bientôt, j'allais dire la fête des mères, plutôt que de leur offrir un batteur cuiseur multifonction, offrez à votre chérie le Mean Girls Club, La Vague Rose de Monsieur Ryan Eshka. Paru aux éditions Les Requins Marteaux, très rock'n'roll. Et ça se lit en buvant, quelque chose d'un peu, un bon bourbon, je dirais, en dégustant un bon bourbon et en écoutant les Ramones.
Ouais, c'est pas mal. Ouais. Wally Wally.
Voilà. La vague rose, c'est excellent.
Interlude musicale, parce que le temps passe, mon bon Roger. Allez, je vous propose une vieillerie, Birdland, une bande de blonds peroxydés anglais des années 90. Ho ho ho, Sleep With Me. Mieux que le jerk et plus swing que le jazz. Birdland, un bon vieux rock'n'roll. C'était un très, très agréable moment passé dans votre cuisine, mon bon Roger.
Merci. Voilà. Merci à vous de vous être dévoué pour avoir porté la valise qui fait quand même... Ouais, elle est lourde. Et puis avant, elle roulait avant, non ?
Et j'avais les bouquins. C'était la 479e émission de Plume et Pinceau, si je ne me trompe pas. Ça fait toujours une de plus. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne lecture, tant qu'on a le droit.